On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous, on fait le match, c'est la 21e de la saison avec comme chaque samedi soir, et vous le savez, le meilleur de l'expertise et du décryptage, le temps encore pour moi d'ailleurs de vous souhaiter la meilleure année possible à l'écoute notamment des programmes de RTL, et ce soir c'est suffisamment rare pour ne pas le souligner, Multiplex Ligue 1 à 10 matchs, soirée complète, hein, comme au bon vieux temps, toutes les équipes de RTL Foot réunies autour d'Eric Silvestro et Xavier Domergue vous donnent rendez-vous à partir de 20h. Dans l'immédiat, on refait le match avec de temps à autre, et vous le savez également, jusqu'à 19h, l'ouverture de la loge VIP. Eh bien, après Noël Le Graët, après Jean-Michel Aulas, après Laurent Nicolin, après Frédéric Thirier et bien d'autres encore, eh bien, nous recevons ce soir Philippe Tournon, le pape du service presse communication de l'équipe de France de football. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Bienvenue à l'occasion de la sortie de votre livre La vie en bleu, où 50 ans de secrets dans les coulisses de l'équipe de France est aux éditions Albin Michel. C'est passionnant tout au long des 358 pages. Pour en savoir plus et vous interroger jusqu'à 19h, Philippe Tournon. Philippe Sansfourche, chef de la rubrique foot de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Et Baptiste Després, spécialiste des Bleus également au Figaro. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir Philippe.
À partir de 19h, Philippe Tournon, eh bien, nous reprendrons avec Stéphane Powell et David Aiello le cours normal dont refait le match. Au menu ce soir, à partir de 19h, je le dis pour nos auditeurs, restez avec nous. Il y aura Raymond Domenech, Mauricio Pochettino, Karim Benzema, l'écosystème du foot en danger, avec votre participation à vous tous qui nous écoutez sur le compte Twitter @RTLFoot. Vous le savez, c'est une émission 100% interactive. Elle est filmée sur RTL.fr ou via l'application RTL avec toutes ces émissions et tous les podcasts, bien évidemment. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Et surtout avec Philippe Tournon en loge VIP, 77 ans. Philippe Tournon, faut-il le rappeler tout de même, ancien journaliste à l'équipe et à France Football durant plus de 15 ans, 17 ans.
16 ans et demi.
16 ans et demi. On en parlera bien sûr de ce monde d'avant, le monde du journalisme, mais également le monde du football, le monde d'avant, mais le monde d'après également. Bref, celui de toute une vie consacrée à l'équipe de France de foot. 337 matchs aux côtés des Bleus à servir la communication, à faire le lien entre joueurs sélectionneurs, presse française et presse internationale. Vous avez travaillé, sauf erreur, sous Michel Hidalgo, Henri Michel, Michel Platini, Gérard Rouillet, Aimé Jacquet, Roger Lemaire, Jacques Santini, Laurent Blanc, Didier Deschamps. Et c'est quand même un fait d'âme à apporter à votre palmarès. Philippe Tournon, vous avez été viré par Raymond Domenech.
Bon, c'est pas un titre de gloire. Raymond a usé son droit tout à fait légitime d'estimer qu'il fallait du changement. Il a tout changé. Il a viré tout le monde, sauf le fidèle Manu de Faria. Et il est reparti sur d'autres bases. Il n'y a rien à dire à ça.
Manu de Faria qui s'occupait de la logistique au sein de l'équipe
de
France.
Oui, c'était l'intendant, les chaussures, les maillots, il préparait le vestiaire, il préparait tout ça.
Alors, je recommande ce livre que je montre aux caméras, puisque RTL, on fait le match filmé, vidéo. Donc, Philippe Tournon, La vie en bleu, si vous le voyez avec cette caméra. On se délecte vraiment. C'est pour les plus anciens, avec quelques anecdotes très gourmandes à déguster. Là, c'était le monde d'avant. Et puis pour les plus jeunes, qui vont pouvoir comparer, car vous avez vécu également le foot d'aujourd'hui. Aux éditions Albin Michel. Ça commence mal, Philippe Tournon. Dès la 18e ligne, vous fustigez nombre d'analystes qui refont le match.
Oui, non, c'est
à la 18e ligne,
ouais,
quand même.
Non, mais c'est vrai. Mais si vous avez lu attentivement, c'est pas la seule fois où je m'interroge sur Mediapart, sur le journalisme d'aujourd'hui et cette propension dans laquelle excelle notre ami Philippe Sansfourche avec ses collègues de l'équipe du soir à refaire le match. Mais alors, sur des critères à eux, l'équipe qui a gagné, c'est pas important. Ils se sont trompés de 3 buts d'écart à la mi-temps sur leur pronostic, c'est pas grave. Ils repartent comme si de rien n'était et ils nous entreprennent que si le losange avait été à plat au lieu d'être en triangle et le 4-2-4 était 4-2-3-1, ah, ça aurait tout changé. Donc ils avaient raison.
Finalement. On va en reparler. Voilà. À 26 ans déjà, vous suivez l'équipe de France de football à 26 ans. Ouais. Celle de Georges Boulogne. Alors là, le football français était dans un état pitoyable.
Absolument. C'était le Moyen-Âge du football. Je raconte qu'à l'époque, il y avait encore une forme d'idéologie du football autour de la défense en ligne, du jeu court, illustré par nos vieux collègues du miroir du football. Et c'était une grille de lecture obligée. Donc évidemment, Georges Boulogne ne posait pas ce diagnostic. Il avait compris que le problème était dans la formation des joueurs. Il a lutté toute sa vie et avec succès, Dieu merci, pour instaurer la formation, pour que le footballeur soit formé comme on se forme à tous les métiers.
Très rapidement, vous êtes rédacteur en chef. Je le dis pour les plus jeunes d'ailleurs, vous n'allez pas sur tous les terrains ou toutes les compétitions, et non pas pour raison d'économie, mais non, simplement non. Pour coordonner tous les papiers.
Je pense que c'est le propre de beaucoup de carrières de journalistes, du moins dans la presse écrite. On commence par reporter, grand reporter, on est tout le temps en voyage, et tout d'un coup, si on est sollicité, comme ce fut mon cas par Édouard Seller, pour grimper dans la hiérarchie, ben on quitte de plus en plus le terrain pour passer son temps en réunion.
Mondial 82. Après le cauchemar de Séville, ouais. L'attentat sur Batiston, ouais, l'élimination ouais. À l'arrivée, la une de l'équipe, fabuleux.
Oui.
Franchement.
Ben c'était un titre que Édouard Seller avait trouvé. Moi j'étais à Séville, je n'avais pas fait la première partie de la Coupe du Monde, j'ai fait la deuxième.
Vous n'avez pas initié ce titre tout de même, Philippe?
Non, je n'ai pas initié ce titre, mais je ne le renie pas, parce qu'il fallait trouver un titre passe-partout. Quand ce titre a été fait et imprimé,
avant bouclage,
l'issue n'était pas connue. Donc ça pouvait basculer dans le drame, ce fut le cas, dans l'euphorie, ça n'a pas été le cas. Donc ce fabuleux contenait bien tout ce qu'il y avait eu de hors norme dans ce match.
Ce sera ma dernière question sur le métier de journaliste, Philippe Tournon. Ensuite, je laisserai la parole évidemment à Baptiste Després et à Philippe Sansfourche. La presse avait déjà des patrons, ou avait souvent des patrons très interventionnistes. On ne critique pas Nantes, vous disait qui?
Oui, c'est Jacques Godet. Parce que son ami Lagardère était à la fois un ami de Jacques Godet, un gros sponsor du FC Nantes, et par ses entreprises, un annonceur dans les journaux du groupe L'Équipe. Donc, je me suis fait un peu taper sur les doigts.
Et ce même Jacques Godet qui vous demandait de faire une enquête, un article, en
ah
tout
oui,
cas,
oui, pour oui, dire, oui,
sur
oui.
Est-ce qu'on ne jouerait pas mieux sans Platini qu'avec Platini?
Exactement.
Il faut être fort pour tenir.
On avait gagné un match sans Platini, avec un coup franc de Gengini. Et Godet, à la fin que je dictais mon papier, me dit « Mon vieux Tournon, la question du jour, c'est est-ce que l'équipe de France ne joue pas mieux sans Platini ?» Et M. Godet, écoutez, excusez-moi.
Donc il y avait déjà des débats incongrus.
On ne va pas entrer là-dedans.
Tout démarre en 1984. Chef de presse, donc sous l'ère Michel Hidalgo, Philippe Sansfourche.
Oui, à ce moment-là, donc vous basculez. Finalement, ce n'est plus le même métier, c'est autre chose.
Ah, complètement.
Vous passez de l'autre côté. Alors, vous avez une formule, d'ailleurs, dans le livre. Il dit pour les journalistes, vous êtes passé de l'autre côté, et puis pour les joueurs, pour le staff, vous êtes toujours encore un peu journaliste.
Mais ça,
c'est un
jusqu'au
peu
bout.
Une vie avec
jusqu'au bout,
entre deux chaises, comme on dit.
Voilà, exactement.
Et ça dure combien de temps, ça? À quel moment est-ce qu'on devient vraiment le chef de
presse? Jusqu'au bout. La confiance s'instaure, la suspicion s'estompe, mais dès que ça dérape un peu, dès qu'il y a une info qui sort qui ne devrait pas sortir, et Dieu sait si les sélectionneurs et celui en place est sourcilleux là-dessus, une info qui sort, c'est peut-être Philippe qui a appelé un copain. Voilà. Donc, pour les journalistes, j'étais passé de l'autre côté et ils pouvaient vivre ce qu'ils voulaient, ça m'est égal. Et pour les joueurs et le sélectionneur, j'étais celui dont il fallait quand même se méfier un tout petit peu parce que journaliste, tu as été, journaliste, tu resteras.
Voilà, mais ça a été le cas jusqu'au bout, Philippe, même en 2018
oui,
avec
oui, oui,
vos
oui,
états
oui,
de service.
Pas méchamment, c'était pas difficile à vivre.
C'était quoi? C'était du chambrage ou ça pouvait être des fois une petite remise en question
de
votre.
Entre les deux, c'est. Je pense que les rapports, vous pouvez en témoigner, vous avez vécu assez de campagnes à côté de nous pour le savoir. La relation presse, équipe de France n'est pas simple, elle n'a jamais été lumineuse, claire. Il y a toujours des bas-côtés pas trop stables et il y a toujours des empiètements où on soupçonne toujours l'autre.
Alors, les journalistes, en principe, disent tout. Est-ce que vous avez tout dit dans ce livre, La vie en bleu?
Non, honnêtement, je n'ai pas tout
dit. Vous vous êtes censuré?
Je ne me suis pas censuré parce que c'était clair avec l'éditeur dès le départ que je ne voulais pas trahir la confiance des 9 sélectionneurs qui m'avaient accordé la leur et que je n'allais pas cracher dans la soupe. Donc j'ai prévenu, je ne vais pas balancer, et j'avais de quoi.
Il vous en reste beaucoup pour le tome 2, Philippe?
Non, il n'y aura pas. Alors je rassure tout le monde, il n'y aura pas de tome 2, mais non, je n'ai pas tout dit, bien sûr.
Pourtant, il y a encore matière à faire un tome 2.
Il y aurait de la matière. Mais bon, je rassure tout le
monde.
Mais
là, une petite anecdote que vous n'avez pas racontée dans le bouquin, que vous pouvez nous livrer.
Bon, on verra tout à l'heure. Là, j'en ai pas en tête.
À la fin de l'émission,
peut-être.
On a le temps. Réfléchissez pendant la publicité. 1984, finalement, c'est aussi votre premier titre. Hein. C'est le titre européen, Michel
Hidalgo.
C'est
le premier titre de l'équipe de France depuis 1904. Il ne faut pas faire de relation hâtive entre mon arrivée et le premier titre, hein, surtout pas. Mais c'est vrai que l'équipe de France a 7 titres. et j'étais dans le coup des 7.
Quand en 2018, Philippe Sanfourche, ouais. Baptiste Després, l'équipe de France fête son titre sur les Champs-Élysées avec combien ? 2 millions ? 2 millions et demi de...
98 ?
Oui, 98.
98, 1 million de personnes.
90, 1 million
dit,
de personnes. Ouais. Et au 60 bis avenue d'Iéna, c'est le siège de l'ancienne Fédération française ouais. de football. Ouais. Il n'y avait quasiment personne. Et les joueurs, champions d'Europe avec Hidalgo...
Oui, en 84 ?
En 1984.
Ah oui, oui, il n'y a personne.
Il n'y avait personne. Ils dînent au siège de la Fédération.
On est dans le sous-sol.
Incroyable.
Et tout d'un coup, j'entends un peu de bruit. Alors, je monte à l'étage où il y avait des fenêtres qui donnaient sur l'avenue d'Iéna. Et là, il y avait 50 personnes très sages. Ah, on pourrait voir les joueurs. Alors, je suis descendu. Il y a Tigana, Platini, venez vous montrer à la fenêtre. Ils ont fait coucou 3 minutes. On est redansé, descendu, finir le fromage.
C'est là qu'on a mesuré, Philippe Sanfourche, l'évolution du football français.
Mais justement, ça, dans la façon d'opérer au quotidien, entre le moment où vous arrivez, donc avec ce récit en 84 et la montée en puissance de ce que devient le football, l'image du football, les réseaux sociaux, comment ça se gère, comment l'évolution vous avez réussi à la gérer?
Ben, c'est une adaptation constante. Je raconte qu'au début, les journalistes venaient dans le vestiaire après les matchs. Je prenais mes commandes. Guy Kédia voulait un tel, il descendait.
Ancien chef du service des sports de RTL.
Voilà.
Eugène Saccomano pour
Europe 1, Jacques Vendroux pour Inter. Et je descendais, tiens. Ben, et le gars, il restait 50 minutes, une heure en salle de presse. Il répétait la même chose 3 minutes à Vendroux, 3 minutes à Sacco, 3 minutes à Kédia. Et c'était pas un souci. Et puis la pression s'est accentuée, l'info en continu est arrivée, les réseaux sociaux sont arrivés, et à chaque fois, on a réduit la voilure à mon corps défendant. Moi, je reste persuadé que le bon contact, il est individuel, mais bon, le one-to-one, c'est...
Même quand Christian Olivier demande à David Ginola s'il y a un problème au sein de l'équipe
absolument.
De France en 93.
Absolument, il n'y a pas de secret, il y a pas... Non, le contact individuel est forcément le meilleur.
Avec tout ce qui s'ensuit.
Alors là, on ne va pas le savoir.
Non, très brièvement, c'est Philippe Tournon l'invité, c'est pas moi, mais je peux témoigner effectivement quand Ginola pousse son coup de gueule sur l'idée qu'il y a un clan parisien, un clan marseillais,
oui,
c'est comme ça qu'il le pousse.
Il y a des privilégiés. Oui.
Et il le dit au micro de RTL et ensuite la presse écrite arrive etc. Ouais. Mais il y avait quand même une sorte de tension avant ces deux matchs, cette double confrontation Israël et la Bulgarie. Je me souviens également, à l'époque, on pouvait faire, Philippe Tournon, vous vous en souvenez, des interviews sur les marches de Clairefontaine.
Oui.
Je pose une question à Eric Cantona. Attention, vous êtes peut-être attendu au tournant avant le match contre Israël. Et là, Canto me dit « Mais tu es qui, toi, pour me poser ce genre de questions ?» Tu me poses la question une deuxième fois et je vais te mettre ma main sur la figure. Tu pourras pas commenter le match.
Du Cantona dans le texte, exactement.
Et là, il fallait pas se dégonfler. Alors, j'ai dit « Canto, tu vas me casser la figure, je pourrais pas faire
mais
mon
je
métier. »
Mais pose ma question quand même.
Mais je vais te poser la question, puis tu vois, si tu insistes et si tu m'agresses, le magnétophone, il pèse, ça s'appelle un agra, il pèse 20 kilos. Si je laisse tomber sur tes pieds, toi, tu joueras pas le match.
Pas mal, bonne partie.
Non, ce que je veux dire, c'est voilà, on les voyait beaucoup plus facilement et les rapports étaient
bien sûr,
très directs.
Direct, évidemment.
Mais cette bascule, Philippe, elle s'opère au moment de 98 sous l'impulsion d'Aimé Jacquet. Il y a eu un avant et après 98.
Jusqu'en 97, jusqu'avant la Coupe du Monde, c'est vrai, les journalistes venaient dans la résidence équipe de France, parfois appelée pompeusement le château. Et Aimé a voulu créer ce qu'il appelait cette bulle, donc... Et puis c'était nécessaire parce qu'il y avait trop de journalistes. L'influence médiatique pour une Coupe du Monde, on n'aurait pas pu les accueillir dans le château. Donc on a bâti des studios à 50 mètres autour du bâtiment d'administration.
Parce que ça veut dire que même Michel Platini, qui lui aussi a été sélectionneur, qui a fait d'ailleurs une belle série dans les matchs éliminatoires.
Sans faute.
Sur la phase finale, trois matchs et aucune victoire.
À la maison, oui.
Mais qui était un professionnel jusqu'au bout des ongles, n'avait pas mis ce code de bonne conduite très professionnalisé en place, tel qu'a pu le mettre Aimé Jacquet.
Non, mais c'était avant. C'était en 90, 91, l'euro pour l'euro 92. Les journalistes venaient encore dans le château. Et Michel a toujours refusé de tenir des conférences de presse un peu trop solennelles. Il se mettait dans un coin. Vous y étiez, Philippe, à cette époque-là? Non, 92
non, 92,
non,
pas encore.
Non.
Ben, il se mettait dans un coin du grand salon de Clairefontaine. Bien calé dans un fauteuil, les pieds sur la table, et puis il y avait une vingtaine de journalistes autour de lui, et c'était une conversation à bâton rompu. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien.
Dans votre livre, vous dites à un moment donné, la phrase qui a peut-être fait contre-performer l'équipe de France lors de l'Euro 92, c'est Platini qui dit à ses joueurs « Faites-vous plaisir ».
Ah oui, après je ne sais plus quel match, il avait fait une série donc qualification, 8 matchs, 8 victoires, et Platini... amoureux du jeu, amoureux du ballon, leur croit bien faire en leur disant ce que vous avez fait, c'est formidable. Maintenant, on va aller jouer à gauche, à droite, avant le haut. Faites-vous plaisir, je ne vais pas vous encombrer de consignes, de ci, de ça. Et Didier le dit, le confirme après l'euro, on avait l'impression dorénavant que tout ce qu'on faisait, c'est une récompense pour ce qu'on avait fait, mais on n'était plus branché sur ce qui restait à faire.
Alors, on va finir de parler dans un instant d'Aimé Jacquet, de Didier Deschamps également, d'une actualité un peu plus contemporaine. On va tourner une page de publicité et on va faire découvrir aux auditeurs ce qu'était, d'une certaine façon, le rôle de Philippe Tournon lors du grand ordonnancement des conférences de presse. Restez avec nous, si on fait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Tournon, auteur de L'Avion Bleu aux éditions Albin Michel. Le prix, très modéré, 21,90€, je le montre aux caméras. C'est un excellent bouquin qui regorge d'anecdotes, n'hésitez pas à vous le procurer. La publicité et ensuite la petite surprise.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match jusqu'à 19h avec Philippe Tournon, auteur de La vie en bleu, 300 et quelques pages, je l'avais noté, 358 peut-être, 358 pages aux éditions Albin Michel. Je le montre une nouvelle fois aux caméras d'On fait le match puisque l'émission est filmée. Ce qui était notamment l'une des facettes, l'un des métiers, pas seulement, de Philippe Tournon avec la presse avant les matchs ou après les matchs. Écoutez, c'était dans le cadre d'une rubrique intitulée Le surf de l'info, signée Cyprien Signy, qui a compilé toutes les petites interventions donc, de Philippe Tournon auprès des journalistes. Écoutez.
Mais oui, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est l'autre star des Bleus.
Il n'y a pas de son au micro, s'il vous plaît. Il est ouvert en bas, regarde. Parle bien près. Donnez le micro aux gens que je vous indique, sinon on ne va pas y arriver. Madame, vous donnez le micro à la personne que je vous indique, s'il vous plaît. Merci.
Oui, Philippe Tournon, c'est le chef d'orchestre des conférences de presse, notamment Philippe Tournon, chef de presse des Bleus à la Fédé depuis 1983, qui tient d'une main de fer les journalistes. À chaque conf, c'est un peu le gendarme Tournon en action.
En français, hein.
Français.
Oui. Je vous ai dit, la conférence de presse se fait en français uniquement.
Avec des conférences de presse en français, ce qui est une riche idée. Hein. La preuve, quand un journaliste espagnol veut poser une question à Griezmann, qui parle couramment espagnol, évidemment, le journaliste doit quand même essayer de poser sa question en français. Résultat,
il n'y a pas de pression pour la Coupe du Monde de la terre de la gêne de toute la session.
Eh bien, le résultat, c'est qu'on comprend rien. Hein. C'est utile, la question en français. Ah, le gendarme Tournon. Avec qui il faut être super rapide quand il te donne le droit de poser une question. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure.
Oui, une question, monsieur en bleu, là. En bleu. Bon, alors, Philippe s'enfourche, RTL.
Eh oui, trop tard, le gars en bleu. Tu passes à s'enfourche. Et si tu chopes le micro avant qu'il ne te le fasse passer, bah, il est pas content du tout.
Non, prenez la question, puisque vous avez le micro maintenant, c'est trop tard. Allez-y, madame.
Alors, bonjour.
Bah oui, vas-y, pose ta question maintenant que tu l'as. Bon, après, Philippe Tournon, c'est un vrai complice de Didier Deschamps. Hein. Comme quand, par exemple, le sélectionneur oublie de lire un nom dans la liste, bah, il peut s'appuyer sur la sagacité de son fifi.
Je pense que t'as sauté Blaise Matuidi dans les milieux de terrain. Il y est bien.
Oh,
il y est bien. On est d'accord qu'il y est.
C'est bien, tu l'as noté, Philippe. C'est pour voir si tu suivis.
Merci.
Ah, il est tout content. Le problème, c'est qu'après, Philippe, bah, il prend un peu trop la confiance avec Deschamps et du coup...
Ah, la technique.
Ah, c'est terrible.
C'est
la
bon
la technique et la tactique. C'est bon là-bas?
Ah, bravo. Bravo, Philippe.
Oh, Philippe, tu serais pas en train de te foutre de moi? Un peu trop à l'aise parfois, le fifi. Eh ouais, il est comme ça. Et si parfois le Tournon peut vous paraître pas commode, sachez qu'avec son anglais impeccable...
Thank you, Fritz. Levez la main pour que les perchwomen...
Ah, les perchwomen, il a su au fil du temps devenir un peu la mascotte, la coqueluche des Bleus et laisser un souvenir impérissable partout où il est passé, comme à l'Euro 2012 en Ukraine où il avait conquis la population locale.
I'm sexy and I know it.
I love Philippe Tournon. J'aime Philippe Tournon.
I love Philippe Tournon.
Je t'aime Philippe Tournon.
I'm sexy.
Alors pour cette Coupe du Monde qui sera sa dernière avant une retraite bien méritée, on se met au garde à vous et on lui souhaite de rentrer avec le trophée. Évidemment.
Et le trophée, eh bien, vous êtes rentré effectivement en France avec oui. La Coupe du Monde. Une grande complicité vous unit d'ailleurs avec Didier Deschamps, Philippe.
Oui, et puis ce côté gendarme là, gentiment raillé, sans méchanceté, c'était un petit peu nécessaire. Je voulais que les conférences de presse elles étaient limité dans la durée, je voulais que ça ait du rythme. C'est pour ça que je prenais les questions avant et je donnais la parole aussitôt pour que ça enchaîne. Sinon, ça faisait 4-5 questions en moins.
Philippe
c'est pour vous, pour les journalistes, toujours.
Alors, ça, c'est intéressant qu'on aborde le sujet Didier Deschamps parce que vous l'avez connu joueur et ensuite sélectionneur. Et il y a d'ailleurs tout un épisode sur l'Euro 2000 où il est en bisbille avec la presse parce qu'il y a Patrick Vieira qui monte en puissance et lui ressent
il
une
pense
forme
que Vincent
de...
Duluc a fait un papier pour lui dire bon Deschamps ça va la place à Patrick. Voilà.
Et que l'ensemble de la presse suit le mouvement. Et
ben, comme d'habitude.
Et donc derrière, lui, il ne veut plus parler à la presse.
Non, il vient
il est dans
voir
une forme de, ouais, d'ostracisme comme ça. D'un seul coup, on ne parle plus à la presse. Il est retors par rapport à ça. Quand on le connaît aujourd'hui et qu'on connaît ses rapports avec les médias, sa façon de s'en servir, mais au sens noble, de savoir que la presse peut être un formidable allié. Il a fait un vrai voyage, en fait, finalement, dans sa, dans sa façon d'analyser les choses.
C'est une des premières choses qu'il m'a dites quand j'ai commencé à travailler avec lui en 2012. Il m'a dit, j'ai fait une grosse connerie en t'écoutant pas. Quand il est venu me dire, avant qu'on parte au stand pour le premier match, je ne parle plus à la presse, je lui ai dit, Didier, tu fais une connerie, en plus t'es capitaine, t'as pas le droit de couper le son comme ça. Avec le... Ça fait rien, j'assume. Alors après, il a mûri et ben, il a dit ben, « j'aurais pas dû le faire ».
On parle souvent de la filiation entre Didier Deschamps et Aimé Jacquet. Qu'est-ce qu'il a de plus en tant que sélectionneur Didier Deschamps par rapport à Aimé Jacquet ?
Ils sont très semblables dans l'exigence et dans la capacité qu'ils ont à tenir leur groupe et à le capter, le captiver et d'en tirer le meilleur. Et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes. Hein. C'est pas du tout les mêmes. Didier a beaucoup plus d'aisance dans la communication, dans l'expression, mais dans l'intimité du vestiaire, j'ai vu dans le regard de Pogba et des autres en 2018, comme dans le regard de Zidane en 98 et des autres, quand Aimé parlait, c'était vraiment... ça n'a rien à voir. Hein. Le vocabulaire, l'expression, l'accent. Bon, Aimé avait un accent forésien et Didier un petit accent de Bayonne. Mais tellement différent, mais tellement semblable à la fois.
On n'a pas évoqué les souffrances d'Aimé Jacquet. Hein. Ça a été terrible avant la Coupe du Monde, effectivement, en 1998.
Très dur. Moins pour lui, qui était à peu près aguerri, que pour sa famille qui a très très mal vécu.
C'était pas tant parfois les options de jeu, même si elles étaient aussi contestées et critiquées, mais c'était parfois ses origines sociales, c'était le personnage qu'il dégageait.
Je dois l'honnêteté de dire que c'est pas l'équipe qui a été à l'origine des attaques les plus basses. C'est comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'équipe est quand même un gros faiseur d'opinion et c'est des hebdos ou des magazines qui parlent de football tous les 4 ans ou tous les 2 ans quand se profile une grande phase finale. C'est eux qui ont taillé, qui ont fait des croquis abject, séminariste sortant du bordel, enfin bon, c'est, ouais, je vous en passe, c'est des meilleurs.
Vous lui avez envoyé ce livre à Aimé Jacquet ?
Bien sûr.
Il
à qui ?
À Aimé ? Aimé Jacquet ?
Bien sûr. Oui. Ah bah oui, Aimé Jacquet, Henri-Émile, Docteur Ferré, bien sûr.
Henri-Émile, grand intendant de l'équipe de France, Docteur Ferré, etc.
Manu de Faria aussi.
Est-ce qu'il a fait la paix aujourd'hui, Aimé Jacquet ?
Je pense que dans sa tête, il a fait la paix, mais... Au fond de lui, la cicatrice est toujours là. J'ai tenté 2 fois ou 3 fois de rabibocher, enfin au moins que d'apaiser. Et puis j'étais sur le point d'aboutir. Et quand l'équipe a fait un procès à Aimé Jacquet, donc c'était tombé à l'eau. Parce que Aimé, dans une interview au Monde, avait de nouveau insisté sur une presse malhonnête. Et la rédaction de l'équipe, qui avait à peine pansé ses plaies et cautérisé les cicatrices de 98...
Oui.
A exigé du directeur de la rédaction qu'il fasse un procès à Aimé Jacquet.
Jacquet a été condamné, même pas.
Non,
il a été relaxé. Le juge a estimé pour ses états de service.
Voilà. Non, pas pour ses états de service. Il a dit oui, il y a diffamation, donc il aurait dû y avoir condamnation. Mais compte tenu de tout ce que l'équipe avait dit sur Aimé depuis des années, match nul, balle au centre.
En 2000, il y a eu Roger Lemaire, pas facile également à gérer.
Voilà. Oui, Roger Lemaire, oui, drôle de personnage.
Ah oui, personnage hors norme. Lui, il est resté 2 ans sans donner une interview individuelle à la presse. Quoi. Après l'Euro 2000 qui avait été émaillé d'un gros incident, Roger a décidé qu'il n'en aurait plus aucune interview pendant 2 ans. Et donc pendant 3 ans, il a eu le prix Citron de France Football.
Vous avez, on l'a dit, le privilège d'avoir connu Didier Deschamps, Laurent Blanc également, joueur et ensuite sélectionneur. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque vous l'avez connu joueur, est-ce que Zinedine Zidane peut faire également un grand sélectionneur ?
Il m'a déjà scotché en devenant l'entraîneur qu'il est. Parce que j'avais quitté, moi, Zizou en 2006. Bon, il est épanoui dans son jeu, rayonnant, mais quand même encore tête basse et rasant plutôt les murs que recherchant la lumière. Donc cette reconversion vers le métier d'entraîneur m'a épaté et sa réussite m'a émerveillé. Donc je n'exclus pas qu'il ait la capacité, mais la fonction d'entraîneur, de sélectionneur, pardon, est unique et requiert des qualités qui ne sont pas celles d'un entraîneur de club. Ça n'a strictement rien à voir. Donc oui, la réponse est quand même oui.
Philippe, vous évoquez dans le bouquin notamment l'épisode avec Karim Benzema et Didier Deschamps, l'affaire de la sextape, on ne va pas refaire le film, mais vous racontez une séquence dans le livre, quand la femme de Didier Deschamps l'appelle pour lui dire, oui, que sa maison a été taguée du mot raciste, notamment suite aux propos de Karim Benzema. On ne va pas refaire le film. Et vous dites qu'il était au bord des larmes. Est-ce que vous l'avez vu aussi touché durant tout votre mandat?
Non. Non, non. Là, il était vraiment bouleversé par ce qui s'était passé. Et on peut penser, il ne l'a jamais dit clairement, mais que ce jour-là, la ligne rouge avait été franchie. Que Benzema, bien que n'étant pas à l'origine directement des tags racistes qu'il y avait sur la maison, c'était un enchaînement. Cantona était dans la partie, Benzema avait dit « Oui, Didier pas raciste, mais peut-être qu'il a cédé à une partie raciste de la France. » Et là-dessus arrive le tag à Concarneau sur la maison des Deschamps. Et c'était trop.
On l'a dit aussi, le fil rouge entre Aimé Jacquet et Didier Deschamps, c'est le fait de placer la sélection tout en haut, qu'elle soit sacralisée. Mmh. Et on sent que vous avez été imprégné de cela, également par votre amour de l'équipe de 58, de tout ça. Mmh. Et moi, il y a un passage qui m'a beaucoup plu dans le livre, c'est le moment où vous reprenez votre fonction avec Laurent Blanc, donc après Nice-Na, et il doit préparer son discours, son premier discours. Et là, lui, il veut parler que de foot au début. Et là, vous mettez l'accent de manière importante sur la nécessité de reparler des valeurs de ce qu'est l'équipe de France.
Oui, la valeur du maillot, la valeur de la sélection nationale au-dessus de tout. Et Lolo, au début, est un peu méfiant, me dit « Attends, moi, je suis pas Montaigne, je ne suis pas Bossuet, je ne vais pas leur faire des discours. » Je dis « Oui, mais attends, après ce qui s'est passé en Afrique du Sud, tout le monde attend des mots forts. Il faut remettre l'église au milieu du village. » Donc, je vais préparer la trame d'une intervention avec les mots que tout le monde avait envie d'entendre. Et qu'il a très bien
dit. Et ça s'est terminé tard, avec Jean-Pierre
Très tard.
Bernès.
Ah oui, à plus de deux heures. Ouais, parce que j'ai, comme d'habitude, comme pour le bouquin, j'avais fait beaucoup trop long. Alors, le bouquin, il y avait 750 000 signes, j'en avais fait plus d'un million. Il a fallu couper.
On va déjà devoir se quitter, Philippe Tournon. On aurait pu faire une quantité, une toute petite
Dernière,
question, une petite de, réponse.
253 internationaux croisés, Philippe, durant votre mandat. La star la plus difficile à gérer?
On l'a géré tout le monde, enfin, Cantona était à surveiller comme mille sur le feu, parce que c'était...
Il vous écoutait ?
Ça pouvait dégoupiller. Oui, oui, oui. Il était très attaché à l'équipe de France.
Et Philippe ?
Le sélectionneur avec lequel vous gardez une attache la plus forte aujourd'hui ?
Oh, c'est Aimé.
Aimé Jacquet.
Oh oui,
Aimé. Vous êtes un amoureux du foot, de tous les foot. Le foot professionnel, on n'a fait qu'en parler jusqu'à 19h. Mais le foot amateur également. Vous suivez le foot amateur?
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai voulu terminer mon bouquin là-dessus, parce qu'on n'en parle presque jamais. Et c'est un milieu extraordinaire. Il y a 2 200 000 licenciés, 54% qui ont moins de 20 ans. C'est un creuset d'éducation. Après l'école, après la famille, c'est un endroit où on apprend à vivre ensemble, on apprend à faire les efforts ensemble. Et c'est 400 000 bénévoles qui se dévouent toute l'année. J'ai voulu leur donner un coup de chapeau.
Merci de nous avoir rendu visite, Philippe
Avec
Tournon.
Plaisir.
Philippe Tournon, La vie en bleu, aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Philippe Tournon. Et long succès, longue vie à cet ouvrage.
Merci.
Formidable. La publicité, les informations, on fait le match suite jusqu'à 20h et 20h-23h. Grand multiplex, 10 matchs ce soir.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match suite, toujours avec Philippe Sanfourche, Baptiste Després du Figaro, se joignent à nous et en studio David Aiello et Stéphane Powels. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bonsoir, ravi de vous accueillir après cette spéciale loge VIP et notre invité Philippe Tournon. On va parler du news, du show, de l'actualité dans un instant. Raymond Domenech avec nos amis de Doxa et de Winamax. 11 ans après Nice-Na, où en est-on de l'image de l'ancien sélectionneur, mais surtout du nouvel entraîneur du FC Nantes? À 19h15, Mauricio Pochettino au PSG. Est-on certain que le courant va passer entre le nouvel entraîneur du PSG et les joueurs du Paris Saint-Germain? À 19h30, toujours pas de nouveau diffuseur TV, les salaires des joueurs revus à la baisse, la négociation se passera la semaine prochaine, des licenciements à Bordeaux, des transferts à l'étranger qui sont évoqués. Est-ce le début vraiment de la fin pour le football français? Puis à 19h45, les tirs au but, avec tout le reste de l'actualité, avant, je le répète, car c'est suffisamment rare, donc il faut insister, avant un multiplex complet, 10 matchs ce soir entre 20h et 23h, avec toutes les équipes d'Éric Sylvestre et de Xavier Domergue. Nous sommes également avec Erwan Lestrohan. Bonsoir Erwan Lestrohan.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur des études, l'un des directeurs des études pour Odoxa, et nous avons cette semaine eu envie de parler de la popularité, ou nouvelle popularité, ou pas du tout d'ailleurs, de Raymond Domenech. Alors avant d'entrer dans le détail, messieurs, qu'avez-vous pensé de Raymond Domenech lors de sa première prestation 0-0, c'était en milieu de semaine. Nantes qui jouera, ça risque de se compliquer un petit peu plus, ce soir à Montpellier. Qui veut se lancer dans le grand
bain ? Au niveau de sa prestation, on va attendre de voir
Baptiste
son équipe ce soir contre Montpellier, parce qu'en quelques jours, c'est difficile de mettre en place un système de jeu cohérent. On a vu quand même qu'il voulait surtout pas perdre contre Rennes. Il fait quoi, une vingtaine de pourcents de possession de balles. Donc là, c'était réussi, l'objectif était réussi. Après, sur l'aspect communication, on va l'aborder tout de suite. Il s'est adouci, on va voir un petit peu comment ça se passe, mais je pense que ça va vite fait se craqueler. On l'a déjà vu hier avec la déclaration sur Maradona. Je pense que finalement, le naturel va revenir très très rapidement au galop.
Il ne s'est pas adouci dans sa communication.
Non, il y a deux fossés. Il y a le fossé football, on en parlera tout à l'heure. Ça, on va attendre, comme plein d'entraîneurs, il vient d'arriver. J'ai mes doutes, mais enfin on en parlera. Il ne faut jamais tuer la bête tout de suite. Mais par contre, sur la communication, effectivement, ce que j'ai entendu... c'est un acteur de théâtre, n'oubliez pas qu'après ça...
Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous choque
L'histoire de Maradona, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'il aime ça. C'est-à-dire que sa manière de communiquer, Raymond Domenech, c'est un fantasme. Il aime faire du théâtre.
En substance, j'aurais pu aussi faire
venir... Il y a une question Mercato.
Sur un joueur.
Sur Jean-Lucas. Il dit oui, j'aurais bien aimé
Jean-Lucas
Maradona,
qui est parti à Brest.
Je peux pas, Maradona est mort. Alors bon, moi, il n'y a rien de méchant. Ça me fait moi, c'est plutôt drôle. Sauf que dans sa position, je ne sais pas si tout le monde l'interprète comme de la drôlerie. Voilà, c'est que le problème de Raymond Domenech, il va porter comme un fardeau pendant des années ce qui s'est passé. Ça, on n'en parle plus. Mais il a un côté théâtral. Il aime ça, même en télé, même sur les médias.
David Ayello.
Moi, j'étais fasciné notamment par sa conférence de presse de présentation où j'ai l'impression, en fait, donc ça faisait 10 ans qu'on l'avait quitté dans ce rôle-là, en tout cas devant les médias. On sait qu'il a officié en tant que consultant, mais devant un micro en tant que sélectionneur ou entraîneur. Et j'ai l'impression que c'était exactement le même. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le même Raymond Domenech qui joue, qui est toujours sur une ligne de crête à s'amuser avec les médias. Alors, effectivement, il n'avait pas encore prononcé cette fameuse phrase sur Maradona, mais finalement, c'est tellement lui. Et avec lui, j'ai souvent le sentiment quand même que rien n'est fait au hasard. Donc je me dis, est-ce que c'est pas une manière aussi de... Voilà, on va parler de lui, c'est ce qu'il faisait essentiellement avec les joueurs de l'équipe de France, c'est-à-dire tant qu'on parle de lui, on parle pas des joueurs, est-ce qu'il va pas essayer de les décharger un petit peu de la pression ?
Philippe Sanfourche ?
En fait, Raymond Domenech, effectivement, il amène toujours le débat sur un terrain qui n'est pas celui que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous lui posez une question, il répond à côté, ou alors il répond avec, en maniant l'ironie, pour finalement ne pas livrer de réponse. Et quand on l'a suivi dans son parcours de sélectionneur, d'entraîneur, et qu'on l'a regardé ses équipes jouer, on s'aperçoit qu'en fait, c'est le résumé de toute sa carrière. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais où il veut aller, on ne sait jamais ce qu'il veut mettre en place, et il vous donne les réponses qu'il a envie de donner. Donc, parfois, c'est amusant, parfois, ça peut être...
Ici, c'est risqué quand même, vu ce qui se passe.
La popularité de Raymond Domenech. Sondage donc pour RTL Winamax réalisé par nos amis de Doxa. Erwan Lestrohan, avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Raymond Domenech ? Ça, c'est la première question que vous avez posée à la fois aux Français et aux amateurs de football.
Tout à fait, oui. Ce qu'ils nous disent, c'est que globalement, 52% des Français ont une bonne opinion de Raymond Domenech, 52% des Français, 55% des amateurs de football, et l'accueil est même plus positif dans son nouveau point d'attache, 62% des habitants des Pays de la Loire ont une bonne opinion de Raymond Domenech. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va dire, c'est plutôt que les relations se réchauffent et on peut faire l'hypothèse qu'on est plutôt sur une prescription des griefs qu'avaient les Français contre lui 11 ans après Naïsna, qui font preuve d'une certaine indulgence, mais qu'on n'est pas non plus dans un basculement de l'opinion.
Ça veut dire que les Français
oublient
ou donnent une deuxième chance.
Mais pour autant, ça reste un pardon qui est assez clivé, parce qu'en réalité, 52% des Français qui ont une bonne opinion de Raymond Domenech, ça veut dire qu'il y a aussi la moitié qui en ont une mauvaise opinion.
C'est du 50-50 quasiment.
Voilà, pour une personnalité sportive, c'est plus... Si pour un homme politique, ce serait très bon, pour une personnalité sportive, c'est le clivage n'est pas bon.
Si je puis me permettre, vu la situation du club de Nantes, où c'est quand même, excusez-moi, un fameux grand foutoir depuis un bon moment, et un fameux grand bordel, si je puis me permettre, il peut faire que mieux. Ça veut dire que, comme il a un président fantasque aussi, on est dans la comédie dell'arte.
On est obligé. Erwan Lestrohan, je vous passe le message de service à l'antenne. On va passer directement à la perception de la nomination de Raymond Domenech comme entraîneur au FC Nantes. Nantes. Raymond Domenech a donc été nommé il y a quelques jours. Diriez-vous que c'est un très plutôt mauvais ou très mauvais choix pour le club ?
56% des Français jugent que c'est un bon choix pour le club. Donc son arrivée au FC Nantes est plutôt bien accueillie par le public, même par 59% des amateurs de football qui jugent que c'est un bon choix pour le FC Nantes. Mais je reviens aussi sur ce qui s'est dit. C'est vrai que sans minimiser le glorieux passé sportif du FC Nantes, Raymond Domenech arrive aujourd'hui dans un club de second plan et on peut imaginer que l'opinion aurait été un peu plus critique sur la pertinence d'une nomination dans une équipe de haut de tableau.
Donc Domenech à Nantes, c'est un bon choix pour 56% des Français et un bon choix pour 59% tout de même des amateurs de football.
Mais Christian, pourquoi ? Christian, pourquoi ? C'est que depuis, je le répète, depuis maintenant longtemps, cette image, malheureusement, du club de Nantes n'est plus cette belle image de ce qu'avaient dans le passé les Canaries. Et donc forcément, comme les gens, excusez-moi, mais qui s'intéresse, hormis les supporters de Nantes, qui s'intéresse encore au Football Club Nantes, je suis sévère, vu les descentes de police, vu les affaires qui s'est passé avec un agent de joueur, vu ce qui s'est passé avec M. Kita, Raymond Domenech arrive comme un sauveur, pour certains.
Un sauveur ?
Non, pour certains. Mais moi non plus, je ne suis pas d'accord, Philippe.
Les bras m'en tombent. Naïsna, c'est quand ? C'est en 1922 ou c'est en 2010 ? C'est-à-dire que ça ne fait que 10 ans et c'est déjà l'absolution totale ?
Tout à fait. Bah,
ça fait que 10 ans, c'est déjà beaucoup.
Non, mais surtout, quand je regarde la ventilation entre les Français de manière générale et les amateurs de football, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de... la notion de pardon et de mansuétude est plus importante chez les amateurs de football. Moi, les bras m'en tombent parce que c'est quand même... Je veux dire, il ne s'agit pas d'enfoncer Raymond Domenech, mais c'est le pire bilan de l'histoire d'un sélectionneur. C'est l'image du football français qui a été entachée pendant des années. Pour se remettre de ça, je trouve que les Français ont vite tourné la page.
David Ayello.
Ils ont vite tourné la page. Ils l'ont tourné, en parlant justement de tourner les pages, souvenez-vous que Raymond a fait une biographie qui s'est extrêmement bien vendue, mais dans des proportions records pour un livre de football. Il a eu également ce rôle que j'évoquais tout à l'heure de consultant, avec quelque part un rôle quand même beaucoup plus rond. Une analyse, en plus, là je pense que pour le coup, son analyse était extrêmement pertinente et que ses qualités, ses compétences sont ressorties parce que sur les plateaux, il était quand même, il n'était pas dans cette provocation, il était moins acide. Il faisait partie de la famille des médias, donc moi je trouve qu'il s'est quand même un petit peu fondu dans ce moule. Alors bien sûr, sa personnalité est restée, mais il n'était plus forcément en opposition. Donc je pense, moi, que les Français, entre sa biographie, qui je rappelle, c'est très très bien vendu, et puis ces dernières années, son rôle dans les médias,
David,
je pense qu'il a réussi. Et d'ailleurs,
David,
la preuve, c'est qu'il a réussi à redorer son image.
David, quand tu es encore sur le terrain et que tout d'un coup tu vas sur le plateau TV, forcément, dès que tu sors quelque chose, tu te fais plus facilement allumer. Quand tu n'es plus dans le circuit, ce qu'il n'est plus depuis des années en club, forcément, moi j'ai travaillé avec lui sur la chaîne de l'équipe, le rôle était d'autant plus facile et on ne va pas lui enlever ses qualités de technicien, d'ex-joueur. J'entendais Sidney Govou, il n'y a pas longtemps, qui dit que c'est l'un des meilleurs entraîneurs, je parle bien d'entraîneur, qu'il a eu sur le plan comment donner un entraînement, comment arriver au bout d'un entraînement sur ses objectifs, on ne va pas lui enlever ça.
Et il a eu quand comme entraîneur, Sidney Govou ?
Il l'a eu.
En équipe de France.
Il l'a eu en équipe de
sélectionneur,
France.
Sélectionneur, c'est pas la même chose. Entraîneur au quotidien, sélectionneur, une fois tous les deux mois,
c'est pas la même chose. Hein, mais on ne va pas lui enlever ces qualités-là. Mmh. Mais par contre, tu parles des plateaux TV. Moi, je te dis, j'ai eu la chance de le côtoyer. C'était assez simple. C'est-à-dire que quand tu as été entraîneur en équipe de France et venir parler de Nantes contre Guingamp, ça me semble quand même assez facile.
Je dis juste que ça a redoré son image.
Dernière question, Erwan Lestrohan. Le regard, justement, Philippe Sanfourche l'évoquait il y a un instant, le regard porté sur la grève des joueurs à Naïsna. Est-ce que Raymond Domenech mérite une deuxième chance ? Est-ce que les Français ont pardonné dans leur ensemble à Raymond Domenech ?
Alors, oui, les Français ne sont 54% à nous dire qu'ils ont pardonné, donc le pardon est majoritaire, 54%, mais il y a aussi, 11 ans après les faits, 44% des Français, plus de 4 sur 10, qui disent qu'ils n'ont pas pardonné à Raymond Domenech Naïsna. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est que l'opinion n'a pas basculé, les Français n'ont pas totalement fait table rase du passé, il reste des Français réfractaires, on est sur la voie de la réconciliation, mais il reste encore des étapes et des griefs qui sont assez profondément ancrés chez certains Français.
On va terminer là-dessus, Philippe
Santorche. En fait, ce qui permet aujourd'hui à Raymond Domenech d'avoir retrouvé un petit peu de crédibilité et finalement une acceptation du public, c'est tout simplement tout le travail qui a été fait derrière par les gens qui l'ont remplacé. Et que cette équipe de France qui est parvenue à redevenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire championne du monde avec le retour des valeurs, eh bien ça permet d'oublier un peu plus rapidement. Mais c'est quand même pas lui qui en a été le principal acteur.
Voilà pour le sujet Raymond Domenech. On va remercier évidemment Erwan Lestrohan, directeur des études pour Odoxa RTL Winamax. La globalité, merci. Le détail, merci beaucoup Erwan, de ce baromètre à retrouver concernant Raymond Domenech sur le site rtl.fr. 19h et bientôt 17 minutes. La publicité, messieurs, et le deuxième débat, un autre entraîneur, celui lui qui a alimenté également les conversations durant la trêve, Mauricio Pochettino. Avec cette question, est-on certain que le courant passera entre le nouvel entraîneur donc, du Paris Saint-Germain et les joueurs, les stars du Paris Saint-Germain? Tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Et avant de parler du cas Pochettino, le cas Domenech fait beaucoup parler sur la toile et notamment sur Twitter, le compte @RTLFoot Baptiste Durieux.
Absolument Christian, parce que c'est un autre baromètre évidemment Twitter, bon pas toujours crédible, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Alors déjà la blague sur Maradona, elle ne passe pas pour Johan. Cette blague de Domenech, trois petits points, c'est comme un joueur en fait qui revient de blessure, il faut y aller doucement, jouer simple. Et non, Domenech devait faire son grand retour en restant sobre tout simplement. Il aurait dû se taire et ne pas tenter de blague. Et sinon les avis se sont un petit peu adoucis. Tristan qui nous dit il sera plus populaire que jamais avec un top 10 en fin de saison, comme il sera lynché en place publique si les résultats ne sont pas là, c'est tout. Mais le coup de communication et le pari est vraiment intéressant. Et puis l'analyse de Simon: de toute façon, qui allait venir au FC Nantes aujourd'hui? Quel grand nom! En l'occurrence Domenech en est un de grand nom. Il a coaché Zidane, donc il va pouvoir coacher Ludovic Blas et Nicolas Palois sans problème.
Toujours un peu d'ironie évidemment sur Twitter. Vous continuez de nous rejoindre sur le compte @RTLFoot. Alors, pas de blague là, hein, le Mauricio Pochettino, lors de ses conférences de presse, bien au contraire. Et cette question, est-on certain que le courant passera entre le nouvel entraîneur du PSG et les joueurs du Paris Saint-Germain? Et pourquoi ne pas se poser cette question finalement?
Ouais, alors là, il y a deux débats en un. C'est-à-dire que vous êtes en train d'évoquer de manière insidieuse le fait que Mauricio Pochettino nous balade, nous les journalistes, depuis qu'il est arrivé. Ça, je vous le confirme, je vous rassure, c'est une évidence.
Donc, ce n'est pas insidieux.
Il n'a pas donné le quart d'une information.
Donc, le qualificatif d'insidieux,
Surtout après Thomas Tourelle qui avait.
Je pense qu'il n'est pas idiot. Il sait très bien les raisons pour lesquelles il a été nommé. C'est un problème de respect de l'institution. Le fait que Tourelle attaque à chaque conférence de presse, soit le médical, soit la politique de transfert de Leonardo. Donc lui, il est dans les clous. C'est-à-dire que vous lui dites, votre équipe, il y a quand même bon. On a bien vu à Saint-Étienne, c'est-à-dire que ça a bien débuté. Ils étaient tous, ils avaient envie. Hein, c'est normal. C'est un nouvel entraîneur, et puis il faut rattraper des points, donc pendant 25 minutes, nickel, puis après, boum, ça s'est mis à plonger, et la seconde période, plus de son, plus d'image. Donc on le sait bien, on l'a dit, on l'a répété, c'est pas un problème d'entraîneur, il y a un problème général, cette équipe, elle a pas eu de préparation en début de saison, et il y a un souci avec le médical depuis des années.
Vous avez raison, Stéphane.
Toutes les semaines, quoi.
Je veux dire, maintenant qu'il y a eu une trêve, qu'ils se sont un peu reposés, vous allez pas nous dire que les joueurs sont
en train de se une préparation longue de début de saison, ils ne l'ont pas eu. Pendant qu'ils étaient au final eight, ils faisaient quoi les autres? Attendez, c'est quand même sérieux. On en revient à la question. Lui, à aucun moment, il ne fait état de cela. C'est-à-dire qu'il rappelle qu'il a des super joueurs à sa disposition, qui va trouver les solutions avec l'apport de tout le monde, dont le médical. Il a un discours qui est totalement l'inverse.
Il est très politique. Pourquoi Mbappé, formidable, il faut qu'il se fasse plaisir. On le mettra au poste quasiment où il faudra.
D'accord.
C'est de la politique, quoi.
Mais pour l'instant.
Ah oui, non, mais il fait de la politique. Oui. Mais c'est Tourelle qui disait au PSG, on ne fait que de la politique. Ouais, c'est ce qui n'a pas plu au Qatar également.
Mais il faut en faire sans le dire.
Donc c'est ça.
Il va quand même pas, en arrivant, il sait que Thomas Tourelle vient de sortir du club pour cette raison, il va quand même pas recommettre les mêmes erreurs en arrivant. Je veux dire, ça serait suffisant.
Alors je pense, c'est un avis personnel, je pense que pour l'instant. Il est en mode modéré, Monsieur Pochettino. Donc je pense que pour l'instant, il est en mode modéré, mais c'est voulu. Je pense que c'est un latin. Et je pense que lui, sous son côté une main de fer dans un grand velours, il est occupé pour l'instant d'être gentil avec tout le monde. Et on ne peut pas le juger après trois entraînements. Donc je pense qu'il est en train de voir la situation. Je pense que les deux, trois petits comiques, là, vous savez, ceux qui font des fiestas et des machins, je pense que, contrairement aux idées reçues, Pochettino, quand il va devoir mettre la gifle, il va la mettre. Et je vais vous étonner.
Stéphane, on disait ça à Thomas Tourelle.
Et Philippe s'en fout, je peux confirmer que s'il y a bien quelqu'un ici autour de la table qui est souvent très sévère avec le Paris Saint-Germain, c'est moi. J'ai envie d'y croire parce que justement, j'ai vu des scènes aussi où il essaye de communiquer avec ses joueurs. Parce que moi, je juge un entraîneur sur les résultats. Et donc, sa communication, forcément, quand ils font les cons, les entraîneurs, ça nous agace. Mais quand ils se comportent comme ici dans un. de consensus mou, on va dire ça. On va attendre, on va attendre. Moi, je pense quand même que ce type-là est un leader. Je pense que ce type-là, à un moment, il mettra des gifles au bon moment.
Mais ça veut dire quoi, mettre des gifles? Ça veut dire mettre les joueurs sur le banc? Moi, j'attends de voir ça.
Bah, ça, il va le faire.
Il va mettre Neymar, il va faire
deux choses.
Non, mais c'est un problème, David.
Attends,
on vous sort un entraîneur qui n'a pas encore palmarès, mais qui a une belle carte de visite, qui est réputé pour sa rigueur et sa discipline. Et vous êtes en train de nous dire qu'il ne pourra pas faire passer le message à Neymar quand...
Moi, je pense qu'il va faire passer des messages. Je le pense. Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui va mettre l'église au milieu du village. Et qu'à un moment, il va
C'est-à-dire, on va faire des jours rêveurs.
C'est-à-dire, l'église au
milieu du village. Je pense qu'il va rien maîtriser plus que Thomas Tourelle. Là, aujourd'hui, dans sa communication, il apprend, il applique finalement ce qu'on lui a dit, la feuille de route. C'est surtout, tu sors pas des clous. Et derrière, tu sors
un discours lugubre et calculateur.
Stéphane, tu es en train de nous dire qu'au moment où le Paris Saint-Germain est en train de renégocier le contrat,
il va mettre Neymar sur le banc.
Et de Neymar, il va mettre des gifles en mettant ces deux joueurs sur le banc.
Toi, David, tu es en train de me dire qu'il va mettre les deux. On t'a pas demandé de mettre les deux. Si déjà t'en mets un.
Mais là, les deux, ils sont en train de renégocier les contrats. Comment veux-tu qu'ils tirent une balle dans le pied comme ça?
Donc, en fait, tout est écrit, quoi. Mais moi, je pense pas. Je pense que cet entraîneur, si Monsieur Mbappé continue à faire des prestations que nous voyons maintenant, il va peut-être le faire souffler un match ou deux.
Il fait de la politique. Il peut faire autrement. Et sur le plan du jeu, qu'est-ce qu'il peut apporter de différent de ce que par rapport à Thomas Tuchel?
Il va forcément apporter quelque chose de différent. Et Thomas Tuchel, il était touché, impacté par ce qui arrive à tous les entraîneurs qui sont à la moulinette pendant des mois et des mois dans les grands clubs, c'est qu'au bout de 2-3 saisons, ils sont essorés. Et c'est vrai que lui-même, à mon avis, fera le constat, Thomas Tuchel, que sur la fin, il ne savait plus trop où il allait. Là, on a vu des choses très simples. Mais par exemple, l'entrée en jeu de Draxler en seconde période à Saint-Etienne, il a tout simplement fait rejouer Draxler à son poste naturel, celui dans lequel il a brillé pendant quelques mois quand il est arrivé au PSG, c'est-à-dire ailier gauche. C'est des choses simples comme ça, mais ça redonner de la confiance à certains joueurs dans certaines situations, et puis ça va s'arrêter là.
Et Draxler, c'est pas le joueur Marco qu'on veut Verratti. Montrer à un moment du mercato pour s'en débarrasser, non?
Bah, vu l'effectif qu'il avait là,
ça ne marchera pas parce qu'avec son salaire, de toute façon, personne n'ira l'acheter.
Il y avait 9 blessés, il y avait plein de jeunes sur le banc. Je pense que là, il a fait ce qu'il a
Il a redemandé à Marco Verratti d'être un petit peu plus dépositaire du jeu. Bon, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pendant une demi-heure, il a beaucoup donné. Et puis après, il s'est un petit peu effondré. Mais...
sous Tourelle également.
Voilà, je pense
mais Philippe, il faut arrêter de nous dire qu'ils sont tous cramés. Hein, si
mais c'est une réalité.
Mais c'est une réalité.
Comment
tous Mais qu'est-ce qu'ils disent des joueurs de Brest et
d'Angers?
Ils ne sont pas cramés, eux.
Moi, j'ai vu Leipzig, j'ai vu Bayern, combien de joueurs,
Philippe Sanfourche, à Paris Saint-Germain, dans
son
noyau.
À quel moment on peut estimer que l'effectif du Paris Saint-Germain sera son...
régénéré?
Oui. À quel moment?
L'année prochaine.
Moi, je suis d'accord.
C'est pour ça que le Qatar a pris un grand risque en faisant cette opération-là. Parce qu'il n'est pas exclu que, malgré toute sa bonne volonté, tout son talent, Mauricio Pochettino se plante sur cette fin de saison... là où tout entraîneur aurait pu se planter. Parce que c'est vrai que les signaux ne sont pas au vert et que les forces vives de ce club ne sont pas dans la meilleure forme de leur vie.
Pour aller dans le sens de Philippe, je vous invite à lire le papier qui est paru dans Le Monde aujourd'hui sur l'impact du Covid sur les personnes. Il se trouve que 3/4 des personnes sur le long terme ont des séquelles, et notamment la fatigue musculaire, le stress musculaire. Donc déjà, par exemple, pour le cas de Kylian Mbappé, on ne s'est pas interrogé de savoir si sa méforme physique ne pouvait pas venir de là. Mais Stéphane, ce sont des faits.
David, je ne nie pas la réalité que ce Covid, je l'ai eu le Covid, j'étais impacté comme tout le monde. Effectivement, je suis un petit peu plus fatigué quand je vais à la montagne. C'est pas ça que je veux
là,
te
dire. Là, on parle de sportif de nouveau.
Mais toi, t'es quoi à haute intensité? Est-ce qu'elle s'en trouve altérée?
Je vais terminer à mon cher ami Philippe Sanfourche, que vous voulez pas l'entendre.
Il veut pas répondre.
Je vais répondre.
Ce n'est pas l'heure des blagues.
Je vais répondre à Philippe Sanfourche. Combien de joueurs, parce que j'ai déjà posé la question 3 fois, tu ne m'as pas répondu. Combien de joueurs dans le noyau du Paris Saint-Germain?
C'est quoi le noyau du Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que tu appelles le noyau?
35 joueurs.
Mais non, 35 joueurs.
David, laisse-moi finir, je t'ai laissé parler.
Mais non, mais tu donnes une mauvaise information.
Ah non, c'est pas une mauvaise
information. Il n'y a pas 35 joueurs dans le noyau du Paris Saint-Germain.
Mais enfin, ils nous sortent des joueurs de leur chapeau, des petits jeunes, des machins.
Mais c'est pas le noyau, ça.
35, c'est peut-être un peu beaucoup.
Allez, on va dire même 30. Hein, 30, vous êtes d'accord sur le chiffre?
En comptant
30
les jeunes alors.
En comptant les jeunes.
Si tu veux. Donc c'est
le
pas
club,
le noyau.
Le club d'Angers ou de Brest
qui n'a pas fait le Final Eight.
Non, mais qui a eu le Covid aussi. Hein.
Mais qui n'a pas fait le Final Eight.
Bah, arrêtez avec votre Final Eight.
Mais Stéphane, ils n'ont pas fait de préparation. Ils n'ont pas fait de préparation.
Quand
tu discutes avec tous les docteurs préparateurs physiques, ils te disent à chaque intersaison, il faut que les joueurs se fassent une caisse pendant 6 semaines.
Sans vouloir te manquer de respect, j'ai travaillé pour des entraîneurs en première division et je sais ce que c'est une préparation physique, effectivement. Sauf que tous les autres clubs ont aussi été impactés. On va revenir avec le Final Eight. Ils ont tous été impactés par cette préparation physique. Tous n'ont pas pu faire cette préparation physique.
C'est faux.
Donc vous êtes en train de me dire,
c'est faux, Stéphane.
En Ligue 1, tout le monde n'a pas pu faire une bonne préparation.
Mais c'est faux parce que si tu dois comparer, tu peux comparer seulement avec les clubs qui ont fait le Final Eight. Et tous les clubs qui ont fait le Final Eight ont repris plus tard que le Paris Saint-Germain. Voilà, ça c'est factuel.
Mais vous êtes en train de me défendre. Il n'y a aucune mesure chez vous. Ce Paris Saint-Germain, s'il n'est pas très bon maintenant, si Pochettino va avoir de la misère, c'est parce qu'ils sont cramés et que c'est le Covid qui les a touchés.
C'est réducteur.
Ça veut dire aussi qu'il y a eu des recrutements qui ont été faits, et ça on peut en reparler peut-être dans une autre émission, et qu'il faut peut-être aussi, tu parlais tout à l'heure, dans le club du Paris Saint-Germain, il y a peut-être aussi des lacunes qu'on ne veut pas voir. Vous êtes en train de me dire, ah, si je t'écoute, mon cher David, ce n'est que le Covid et la fatigue. Moi, ça me rend fou.
Et moi, ce qui me rend fou, c'est que tu nies l'impact à la fois du Covid et du
manque de
travail. Tu nous dis, c'est pas ça l'explication.
C'est l'explication principale.
Le Paris Saint-Germain a eu 6 blessés en moyenne par match depuis le début de la saison en Ligue 1. Il y en a eu encore 9.
Mais il y a des clubs qui ont 6-7 joueurs sur le carreau.
Mais pas sur la durée, ça n'existe pas.
Sur la durée, ça n'existe pas. Il y a eu plus de 100 joueurs.
Le Covid a vraiment été méchant. Que au Paris Saint-Germain.
C'est pas un argument que je vous donne, mais il faudrait d'ailleurs voir en détail l'Olympique Lyonnais, leader du championnat actuellement, qui a fait la phase de groupe à 8 également.
Mais qui ne joue pas la Ligue des Champions.
Qui n'est pas allé aussi loin, effectivement. Voilà. Et qui joue pas, voilà.
Bah oui, mais c'est ultra important.
C'est central.
Mais non, mais trouver des cibles.
Je dis pas que c'est uniquement la raison, mais en revanche, l'Olympique Lyonnais, on va le dire jusqu'à la fin de saison, le mardi et mercredi, ils sont devant leur télévision.
C'est central.
Le Paris Saint-Germain, tous les 2-3 jours, il n'y a aucun entraînement. Ils sont là, ils font de la piscine.
C'est déjà vu de la mauvaise foi.
Ils font des massages.
Vous n'avez absolument pas répondu à ma question, Mauricio Pochettino. Est-on certain que le courant passera entre le nouvel entraîneur du PSG et les joueurs du Paris Saint-Germain? La question pour l'instant est sans réponse. La publicité et ensuite le foot. Est-ce le début de la fin pour le football français? A tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, c'est chaud, mais c'est intéressant. Les avis divergent, c'est le principe de cette émission. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 23h. Vous retrouverez toutes les équipes, on va les citer, tiens, sans en oublier. Eric Silvestro, Giovanni Castaldi, Xavier Domer, Quentin Vasselin et Raymond Abou. Et bien sûr, tous nos correspondants, 10 matchs ce soir. Je vous donne le programme. Bordeaux-Lyon, Dijon-Marseille, Lens-Strasbourg, Metz-Nice, Monaco-Angers, Montpellier-Nantes, Nîmes-Lille, PSG-Brest, Reims-Saint-Etienne et Rennes-Lyon. Tenez-vous bien, le dernier multiplex, c'était le 20... à 10 matchs. Hein.
Ouais,
à 10 matchs. Hein.
Le,
à
vrai.
10 matchs. Le vrai. 21 décembre 2019.
C'est samedi, génial.
21 décembre 2019. C'était formidable. Ouais. Le compte @ RTL Foot, le Paris Saint-Germain, Pochettino, les joueurs, les stars, Baptiste Durieux.
Ils n'ont pas vraiment répondu à votre question, Christian, je m'en excuse, mais les avis sont très intéressants tout de même. Message d'Alexis qui reprend un peu ce que disait Philippe. Pochettino, pour son premier match, a fait des choses simples qui font du bien, une compo normale, des changements normaux et de la cohérence et du bon sens. Enfin, message de Dorian, je sais que Pochettino, c'est un entraîneur pour qui le style et l'animation du jeu dépend surtout d'une grosse préparation estivale. Donc déjà, ça part mal forcément. Et puis un message de William également: on fait passer Pochettino pour la grande légende du club qui revient aux affaires pour révolutionner une équipe finalement intouchable dans un club immodifiable. Voilà la vérité.
Il y a quelque chose quand même qui est assez particulier de la part de nos commentaires. C'est, je me souviens, lors de l'arrivée de Thomas Tuchel, on avait dit formidable Thomas Tuchel, il y a peut-être la rigueur allemande, on verra, mais aucun palmarès. On est bien d'accord.
Ouais. Pochettino, pas de palmarès, non.
J'entends pas ça sur Pochettino. On a quand même parfois des discours, des analyses, des observations à deux.
Bah, il joue la finale de la Champions League.
Il y a quand même une gestion de 5 ans d'un club comme Tottenham, donc qui est quand même pas rien. En plus, sur une période où il n'a pas pu recruter, avec au final quand même une finale de Ligue des Champions. Donc
perdu.
On va dire que perdu, mais il y a quand même un parcours. On va dire que sportivement, il a un petit plus. Alors effectivement, c'est rien d'extraordinaire, mais il y a un petit peu plus de crédit que Tourelle.
Bon, ouais, mais ce qui plaît quand même, Christian, pour être vraiment neutre là et pas être dans des discussions tordues, il dégage quand même plutôt, je trouve, une certaine sérénité. Je pense que le mec, il sait où il va. que Tuchel, il y a eu des moments, il était perdu.
Ça veut dire quoi, il dégage sur une sérénité ? C'est ça, je me fais vraiment l'avocat du diable. Hein. Ouais. C'est quoi, dégager une certaine forme de sérénité ?
J'ai la chance de travailler dans des vestiaires.
C'est d'être en costume en suivant le match, plutôt qu'être en survêtement.
Non, je m'en fous. Non, je m'en fous du costume et du survêtement.
C'est quoi, ça ?
C'est sa manière de parler dans le couloir avec les joueurs. Sa manière de positionner, je l'ai vu sur le banc de touche. Il me dégage quelque part d'un entraîneur qui sait où il va.
Mais franchement, on disait ça de Thomas
Tuchel. Non, mais exactement. Oui, alors c'est pas exactement similaire parce que Thomas Tuchel, à part Dortmund, il n'avait pas une expérience de deux championnats déjà.
C'est vrai.
Mauricio Pochettino a commencé à l'Espagnol Barcelone. Mmh. Ensuite, Southampton, il les a fait monter avec à la 8e place en Première Ligue avec un effectif assez réduit. Et ensuite, on l'a dit, 5 saisons au très haut niveau. La Première Ligue, c'est quand même aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la référence mondiale. Et ce qu'il a prouvé en Première Ligue, avec tout l'environnement que ça représente...
C'est pas mal.
Il offre quand même quelques garanties au niveau de l'expérience, de sa qualité de management. C'est pas non plus
et
un
il est
hasard.
Latin. Et il est
si
latin.
Son nom circulait partout, et qu'au moment où Zinedine Zidane était en difficulté, il était
c'est les journaux qui donnaient son nom.
Il n'y a pas de garantie, on va dire qu'il offre quelques perspectives.
Voilà. Ceci dit, là où il n'y a pas de garantie pour le coup, c'est sur sa capacité, on revient à ce problème-là évidemment, à gérer les égos des grandes stars du Paris Saint-Germain, parce que ça, Tottenham, il n'a pas eu.
Oui, mais il y a des Argentins dans le groupe, ils parlent espagnol. C'est des détails pour vous, mais dans la communication, mais ça veut dire beaucoup.
Neymar est brésilien et Mbappé est français.
Mais au-delà des résultats, on va juger vraiment sur le style, parce que Philippe le disait tout à l'heure, il y avait très peu de cohérence finalement au niveau de Thomas Tuchel sur les dernières compositions d'équipe, Danilo Pereira, Marquinhos et compagnie, défense à 5. Là, on va l'attendre là-dessus. Alors, en quelques jours, ça va être compliqué à mettre en place. Est-ce que sur les prochaines semaines, ce sera le cas ? Plus la saison prochaine, mais en tout cas, c'est vraiment sa feuille de route, imprimer un style au PSG.
Non, mais attention, il y a le Covid. Hein.
Attention, Paris Saint-Germain qui reçoit Brest ce soir au Parc des Princes, l'une des 10 rencontres de la soirée. Messieurs, on en a beaucoup déjà parlé dans On fait le match, et depuis l'arrivée du Covid, depuis le premier confinement, toujours. Alors, bon, il y a eu des épisodes évidemment différents, avec une actualité différente, mais à l'arrivée, toujours pas de nouveaux diffuseurs télé. Des salaires de joueurs peut-être revus à la baisse. Il y a des négociations qui vont s'entamer et ce ne sera pas simple. Négociations ou collectives ou individuelles, ça va être extrêmement compliqué, des négociations donc qui vont s'ouvrir la semaine prochaine. Factuellement, il y a des licenciements à Bordeaux. Alors ça concerne, mais c'est à souligner, le personnel administratif, 26 personnes en contrat à durée déterminée qui sont donc licenciées. Bordeaux compte environ 300 salariés. On parle des transferts. Moi, je veux bien, hein, personne n'a de l'argent, mais les transferts possibles tout de même à l'étranger. Il y a des joueurs qui vont certainement partir. Alors à Lyon, pour l'instant, on est préservé. Visiblement, Depay et Aouar qui auraient pu prendre la tangente.
Ils vont rester peinards jusqu'à
la fin de la saison. Bon. Il y a quand même des signaux très alarmants. D'où la question un peu, évidemment, un peu anxiogène pour le football qu'on aime. Est-ce le début de la fin pour le football français ?
En tout cas, c'est une période charnière, comme vous le disiez.
Philippe Sanfranche.
Parce que, on l'a déjà dit, on le redit, à une crise mondiale et majeure, s'est ajouté un bonus avec Mediapro dont on serait bien passé au pire des moments. C'est-à-dire qu'à tout instant, ça aurait été une vraie crise, mais dans la période actuelle, c'est une double crise qui fait que le football français peut se retrouver en péril. Donc il va falloir taper fort et intelligemment, parce que ça plaît au grand public, l'histoire de la baisse des salaires des joueurs. Ça, c'est pour l'image, c'est parfait. Mais en termes concurrentiels, on a déjà une fuite des talents qui est précoce, avec des jeunes joueurs parfois qui n'ont même pas le temps d'évoluer au premier niveau, qui sont à peine professionnels, qui s'en vont. Si vous revoyez les grilles de salaire à la baisse, c'est la fuite immédiate. C'est-à-dire que immédiatement, le championnat de France est déclassé. On a beaucoup parlé de l'influence de nos institutions auprès du politique, le poids du sport, le poids du football. C'est maintenant qu'il va falloir être fort. Ouais. C'est maintenant qu'il va falloir rappeler à nos politiques, sans démagogie, qu'un club comme Angers paye 12 fois ce que paye le Real Madrid en charges salariales et charges patronales. C'est-à-dire que le football français paye beaucoup plus auprès de l'État que le football étranger. Donc, si nos institutions sont fortes, il va falloir qu'elles aillent chercher aussi sur ces terrains-là. Avant de parler de la baisse des salaires, parlons déjà de ces sujets.
Alors, j'aurais quand même pu poser la question différemment, David Aiello. Oui. Hein, c'est est-ce que les joueurs auraient raison de refuser une baisse des salaires ?
Dans le budget des clubs, le poste des salaires, c'est souvent le premier poste de dépense.
60%.
La masse salariale.
La masse salariale.
Entre 50 et 60%.
Donc, vu le contexte actuel d'urgence,
je ne vois pas comment on va faire cette économie. Alors, Philippe a raison, il y a d'autres pistes à creuser qui sont quand même, pour moi, un petit peu plus compliquées parce qu'effectivement, ça fait appel. Enfin, voilà, comparer le modèle social, en gros, du football français, du football espagnol ou des autres pays.
J'aurais pu prendre l'Allemagne. Hein. L'Allemagne n'est pas un pays communiste.
Mais ce que je veux dire, c'est que ça s'inscrit dans des économies globales. Qui sont différentes. Donc c'est toujours difficile de parce que si on devait baisser que les charges sociales des clubs de foot, bon bah il y a d'autres secteurs de l'économie qui vont venir réclamer pourquoi pas les restaurateurs, pourquoi pas les cinémas, etc. Donc c'est quand même difficile. Et comme je le disais, je pense que ça peut prendre beaucoup de temps. Il se trouve que là il y a une urgence. Donc je ne sais pas si les clubs vont pouvoir faire et les joueurs vont pouvoir faire l'économie d'une baisse de salaire. Et je rajouterais, juste pour terminer, que des clubs comme le Barça ou le Real Madrid l'ont également fait sur la fin de saison dernière.
Stéphane Powell, j'ajoute qu'en Angleterre, c'est pareil. Hein, beaucoup de clubs refusent, des joueurs refusent. Parce sauf que c'est une... mais... Leeds, ils ont accepté, mais ce sont des négociations qui sont particulières et différentes de celles qui peuvent être entamées en France.
Nous avons eu cette période durant l'arrivée de ce Covid, là, où en confinement, où nous avons fait beaucoup d'émissions pour parler de ce sujet-là. Et il y avait déjà un autre sujet, c'était de se dire, est-ce que ce Covid, il y aura un avant et un après-Covid pour le foot, est-ce que ça ne va pas remettre un petit peu les pendules à l'heure? Quand j'ai les pendules à l'heure, je sais qu'il y a un problème de niveau, de qualité de joueurs qui pourraient partir, mais moi, quand je dis remettre le niveau, c'est ceux qui ont bien travaillé. Je prends l'exemple de Grégory Lorenzi, qui est le directeur sportif du club de Brest et qui nous explique dans l'équipe que lui, et à titre personnel, je le côtoie de temps en temps, bah lui, quand il va chercher un joueur, il fait gaffe. Quoi. Ça veut dire que depuis 3 ans, ils font attention à ce qui dépend.
Ça veut dire quoi, faire gaffe? Ils font tous gaffe, non?
Laisse-moi finir. J'ai travaillé dans ce poste-là. J'ai travaillé à Monaco, donc je sais comment ça fonctionne. Il y a un moment, on a dépensé sans dépenser. Il y a des clubs qui ont vraiment compté le moindre sou. Et donc, on en arrive maintenant, on va devoir commencer à compter pour tout. Et je reviens sur ce qu'on dit sur les employés. Parce que c'est ça qui est dramatique. C'est que le football, c'est pas que les joueurs professionnels. Il y a toute une économie à côté. On va devoir licencier du personnel.
Mais moi,
il y a un chiffre que vous me dites. Non, mais il y a un chiffre qui est terrible, Christian, que vous me dites. 300 personnes à Bordeaux. À l'époque, quand je travaillais au LOSC, ils étaient 20 dans les bureaux.
Mais ça, c'était le football d'avant.
Non, il y a 10 ans, mais 300 personnes. Donc il y a un moment, c'est ça, je termine, c'est que même à ce niveau-là, il va falloir faire des économies. Même à ce niveau-là, il va falloir optimiser la qualité du personnel que nous avons.
Bordeaux, on peut revenir sur la question, mais la gestion de l'actionnaire bordelais, c'est un autre sujet, mais bon, c'est assez complexe. Mais pour revenir sur la question de la baisse des salaires...
C'est assez complexe. Ils sont 50 millions de déficit. En juillet, ils ont réinjecté 30 millions. Ils ont mis un peu de courant également ces dernières semaines.
C'est terrible.
Je suis pas sûr que Bordeaux soit l'unique exemple.
Le Loge, ça va être compliqué à Lille aussi.
Ouais. Mais sur la question de la baisse des salaires, j'en parlais pour un sujet avec Laurent Nicolin, président de Montpellier, et qui lui m'expliquait, il n'avait pas encore entamé les discussions, mais qui savait. Alors après, c'est peut-être des belles paroles, mais bon, pour quel intérêt il a à le dire, qu'il avait un groupe sain à Montpellier et que c'était une question de responsabilité et quant à la survie vraiment du club. Alors lui, il y a un actionnaire derrière l'entreprise de Nicolin, donc ils ont de l'argent, ils vont remettre au pot. Et lui disait, j'aurais aucun problème à ce qu'il y ait une baisse de salaire, au moins temporaire, de la part de mes joueurs. Et c'est.
Le patronat n'aura aucun problème, mais c'est les. Oui, c'est ça. Ce sont les joueurs qui ont.
Les joueurs et les agents.
Non, non, la publicité. Les joueurs disaient que c'était bon.
Publicité.
RTL, on refait le match.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La dernière ligne droite d'On fait le match en compagnie de Philippe Sanfourche, Baptiste Després, Le Figaro, Stéphane Powell, c'est bien sûr David Aiello et 20h-23h le multiplex. 10 matchs ce soir à l'occasion de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Est-ce le début de la fin pour le football français? Les joueurs auraient-ils raison de refuser une baisse de salaire? Sont-ils égoïstes? Sont-ils surpayés? La masse salariale est-elle la seule fautive de la crise du football français? Vous les voyez venir, ces questions polémiques? Moi j'ai une suggestion à faire. Suggestion, très modeste suggestion, les deux plus gros salaires de chaque club, il faut les réduire. Mais les autres non, parce que les salaires médians, les salaires moyens ne sont pas si importants que cela. Tout est relatif. Ouais. Nous sommes d'accord.
Ah bon. Moi, je pense tout l'inverse.
C'est-à-dire ?
Je pense que les salaires moyens des joueurs de Ligue 1 sont trop élevés par rapport au niveau qui nous est offert. Et qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont assis tranquillement sur des contrats
80 000 euros.
À 80 000, à 100 000, à 120 000 euros.
Et qui ne méritent pas ce salaire.
C'est toujours trop pour quelqu'un qui gagne le SMIC, ça. On est d'accord. Mais 80 000 euros dans le monde du football.
Christian, je rejoins Philippe.
Il y a des disparités. Juste un truc. Je reviens de Saint-Etienne. J'ai discuté un peu avec des gens bien informés à Saint-Etienne.
Oui, Philippe.
Romain Amouma, on est tous d'accord pour dire que c'est un des meilleurs. C'est peut-être le meilleur joueur stéphanois depuis 5 ou 6 ans, qui leur sauve la mise à chaque fois, même s'il est souvent blessé. Romain Amouma, il gagne 5 fois moins que Mathieu Debuchy. C'est normal, ça ?
Non, c'est pas normal.
C'est normal.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je rejoins
50 000, l'autre il est à 50 000.
C'est pour ça que je rejoins Philippe Christian, c'est que je pense qu'effectivement, le gros problème, c'est ça, on l'a déjà dit dans cette émission, c'est qu'il y a des mecs qui ont reçu des salaires de dingue et qui ont touché trois ballons dans leur vie, quoi. Il y a eu une disparité.
Mais les joueurs ne sont pas responsables de cette situation.
Mais attendez, alors on va laisser des mecs moyens à gagner 80 000.
Mais on te proposerait 10 fois la pige que tu as pour participer à On fait le match, tu la prendrais ?
Écoutez, si on doit tous perdre notre emploi, non, je reste.
Ce sont les dirigeants qui sont fautifs dans cette affaire.
Ah, mais non, mais Christian, mais bien sûr, c'est les dirigeants. Mais alors, ils doivent prendre leur responsabilité, le bâton de pèlerin, d'aller voir les joueurs, les agents de joueurs et de trouver des accords. Sinon, ils vont tous mourir. Là, dans cette situation que Philippe vient de dire sur ce genre de cas, parce que je le connais, ce cas-là de Debouchy, les clubs vont crever. Hein. Les clubs vont jamais tirer le coup avec cette histoire de médias pro. Mais qui va venir maintenant mettre autant d'argent pour les clubs français? C'est une catastrophe ce qui se passe. Et le foot français va mourir, David. On est mal barré.
Par rapport à ce qu'on a dit sur faut-il que les joueurs baissent leur salaire ou pas, en tout cas ce qui est quelque chose qui me paraît indispensable, c'est que si les joueurs doivent baisser leur salaire, les dirigeants doivent le faire aussi. Parce que déjà en termes d'exemple, ça me paraîtrait quand même compliqué d'aller voir les joueurs en leur disant bon, vous allez baisser vos salaires, mais moi je vais pas baisser le mien. Et puis d'autre part, effectivement, on peut penser qu'ils sont largement responsables
vous
de la situation.
Vous pensez que votre
actuelle.
Ami Jacquero va...
Je dis juste qu'à mon avis, en termes de politiquement correct et en plus en termes de responsabilité, les dirigeants, notamment dans la crise média pro, ont une large part.
Et alors, les dirigeants, les joueurs, les entraîneurs aussi. D'ailleurs, il y en a un qui est monté au créneau cette semaine en conférence de presse, c'est Frédéric Antonetti, l'entraîneur du FC Metz, qui estimait que les joueurs n'avaient pas à baisser leur salaire. Et que la responsabilité incombait au président.
Alors, vous savez quoi, il n'y a personne qui va baisser son salaire.
Non, mais de toute façon, il n'y a plus d'argent à l'école. Ça va être déficit.
D'accord. Donc, que personne fasse des efforts et que tout le monde prenne bien le mur, puisqu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, que je pense que c'est Droit TV, et Philippe doit connaître bien mieux le dossier que moi et David aussi, c'est pas gagné. Et Baptiste aussi, je pense que.
Ah, bah, ce sera de toute façon à la baisse.
Donc, ça va être compliqué.
Et après, il faut bien se rendre compte, Stéphane Powell, c'est vous tous, mais vous le savez, que c'est soumis au code du travail. C'est-à-dire que, je veux dire, on ne peut pas imposer une le salaire. Il faut qu'il y ait un accord collectif de la part des joueurs, des employés,
mais
c'est très compliqué.
Ils vont trouver des accords, mais ce seront des accords aussi, temporaires, comme ça a été trouvé dans les autres championnats.
Et puis ils ont fait un business plan, Philippe, avec cet argent de Mediapro, pour monsieur, madame, tout le monde qui ne comprennent pas ce qui se passe, ils ont fait des business plans en faisant signer 10 joueurs, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'était avec l'argent des droits TV, que les gens comprennent bien ça.
Et avec
des stades pleins. Il n'y a plus cet argent, mais tu vas devoir c'est très basique ce que je dis, mais tu n'auras pas cet argent, mais tu dois continuer à payer les gens. Impossible. Dans une entreprise normale, si c'est pas le football, tu prends le mur.
Alors quelles sont les solutions ?
Dans un premier temps, ça va être de vendre les joueurs.
Le mercato.
Ça va être de les céder.
À qui ?
Eh ben, à ceux qui pourront acheter.
Mais personne n'a de l'argent.
Eh ben, il y en a très peu, mais il y a quand même des championnats qui ne sont pas impactés par une crise de diffuseurs en plus de la crise.
Ce ne sera pas suffisant.
Donc il va y avoir une fuite des talents, c'est une évidence. Même si, on l'a déjà expliqué, les conditions du Brexit ne sont pas non plus faites pour arranger les affaires des clubs français, au moins dans un
notamment des joueurs pour les jeunes, pour les très jeunes. Pour les jeunes,
oui, pour les joueurs moyens, de manière générale. Bah, oui, 80% des joueurs pour les stars, ça changera rien.
Les Anglais veulent de très bons joueurs.
Il se trouve qu'en France, on a quand même aussi. Il y a du volume aussi dans les ventes, c'est-à-dire qu'il y avait des très gros transferts pour des très bons joueurs, mais il y avait aussi beaucoup de volume avec des joueurs, comme on le disait tout à l'heure, moyens. Donc ça va être très très important.
Moi, je ne suis pas sûr que la qualité de football va être moins bonne quand il y aura des régulations et qu'il y aura des efforts financiers qui sont faits. Moi, je pense, comme Philippe Sanfourche, qu'il y a beaucoup trop de joueurs qui sont payés trop cher pour ce qu'ils nous montrent. Moi, je pense que s'il y a un nivellement vers le bas, je parle au niveau des salaires, je ne suis pas si sûr que le niveau du football français va être plus faible.
Peut-être pas pour Paris. Vous faites des constats, mais il faut trouver des solutions, les amis. Il n'y a plus d'argent dans les caisses.
N'avez pas de sous, vous, un petit peu, Christian ?
Non, en revanche, beaucoup de messages sur Twitter, @RTLFoot, avec Baptiste Durieux pour l'ensemble des débats qui ont démarré depuis 19h.
Et justement, sur les salaires, message de Patrice, aucun problème pour les très gros salaires. Le seul problème, c'est quand on les donne à des joueurs qui ne les rendent pas sur le terrain ou qui ne valent pas ce qu'ils coûtent au club. Elle est là, la problématique. Et puis, message de William, ça arrive brutalement, cette crise, mais ça devait arriver. Une refonte profonde du système économique des clubs qu'il était possible de faire avant sans pression doit aujourd'hui se faire impérativement. C'est terrible, mais au fond, c'est aussi positif.
Parce que petit à petit, les dossiers sortent. On parle là, donc, des 50 millions de déficit à Bordeaux. À Rennes, il y a 40 millions d'affichés également. Et petit à petit, les clubs commencent à afficher publiquement les déficits.
Il y a aussi un ménage qu'il faudra faire à un moment ou à un autre. Ce sera long, ce sera compliqué. Il faudra aussi que les pouvoirs publics décident à un moment donné de crever l'abcès. C'est l'ensemble des redistributions de mandats, de montants sur les transferts avec différents intervenants qui sont à la limite, parfois, et bien souvent, de l'opacité et de la légalité. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il va falloir, avant de parler du vrai net sur la feuille d'impôt, tout ce qu'il y a avant dans les transferts de joueurs...
Les agents de joueurs,
c'est quand même un gros problème, beaucoup de ménages à faire.
Mais bien sûr,
Mais là où c'est compliqué, ça, je rebondis juste sur le dernier message qu'on a eu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne peut pas en fait réformer, enfin on peut, mais réformer le football français tout seul, ça ne sert à rien. Il faut une réforme globale, il faut une réforme au niveau européen. Tu l'as dit, la disparité sur les charges sociales, elle est terrible. Et aujourd'hui, agir tout seul, on va se tirer une balle dans le pied si on agit.
Mais David, cette disparité, elle date depuis combien de temps? Ça fait des années qu'on dit ça, finalement, et rien ne change.
Et il y avait les droits à l'image, il y avait des manières de compenser un peu qui n'existent plus.
Ne tirons pas sur tous les joueurs. Non. Tu devrais améliorer, d'ailleurs, parfois leur communication. C'est toujours un peu délicat quand tu es partenaire et que tu es dans une équipe, que tu acceptes de baisser ton salaire et que le copain d'à côté n'accepte pas de le faire.
C'est difficile.
Mais par exemple, j'ai vu cette semaine Paul Bayes, par exemple, a accepté une baisse de salaire. Il y a un joueur de Reims, dont le nom m'échappe malheureusement, qui a accepté également et qui a eu même le raisonnement de disant, écoutez, moi je baisse un peu mon salaire, je ne sais pas si je récupérerai cet argent perdu après, je peux le faire, mais en même temps, si ça permet franchement à la femme de ménage, au personnel administratif,
c'est bien de le dire.
Et ces joueurs-là devraient d'ailleurs le faire savoir davantage, mais c'est peut-être pas forcément toujours facile. 19h50, la publicité et les tirs au but. Vous connaissez le concept désormais que tout le monde nous envie, c'est les questions que vous ne connaissez pas sur une actualité pas encore identifiée. Vous attendez le coup de sifflet de l'arbitre et vous donnez votre réponse. Et si elle est pertinente, vous remportez la mise. A tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Les 9 dernières minutes d'On fait le match, toujours avec Philippe Sanfourche, Baptiste Després, Stéphane Poels, David Aiello et ensuite 20h-23h, le grand multiplex, 10 matchs ce soir sur l'antenne de RTL. Bravo au Figaro qui nous a sorti une petite information sous forme d'interview. Deuxième candidat déclaré aux élections après Frédéric Tirailler, qui était sur RTL il y a peu de temps dans On fait le match. Celle de Michel Moulin qui a donné donc en avant-première une interview au Figaro, Baptiste.
Monsieur
Michel Moulin. Alors attention, les tirs au but, vous attendez évidemment le coup de sifflet. C'est donc la deuxième candidature, je vous l'ai dit. Croyez-vous réellement aux chances d'une personnalité aussi iconoclaste?
Pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Je pense que Michel Moulin...
Baptiste Després du Figaro.
Quand on l'a eu en interview... Même lui donnait l'impression quand même de pas trop y croire. Il voulait être un petit peu le poil à gratter de cette élection. Alors forcément, il pense qu'il a des chances. Il s'entoure de personnalités, on va dire, éclectiques. Il y a Max Guazzini notamment dans la liste, l'ancien président du Stade français.
David Douillet,
Christine Kelly, et j'en passe, la femme de Marc Madiot. Notamment de certains joueurs comme ancien
Jennifer Madiot.
Avec Fabien Barthez, avec Eric Dimeco. Après, en fait, son axe de bataille, c'est quasiment le même que Frédéric Tirailler, c'est le foot amateur. Parce que Noël Le Graët est quasi inattaquable sur l'équipe de France, sur les comptes de la Fédération Française, sur les contrats de sponsoring. Donc ils vont tous l'attaquer là-dessus, sur aussi l'ambiance qu'il y a un peu délétère au sein de la Fédération Française de Football. Maintenant, de là à dire qu'il va remporter l'élection à la présidence de la FFF, il y a quand même un grand pas.
Ils vont l'attaquer sur le football amateur, Noël Le Graët également, parce que c'est la clé. C'est la clé du vote.
Sûr.
Tous les votes se situent là. Enfin, ouais. L'essentiel se situe là.
Est-ce que ce monsieur est vraiment crédible? Voilà, t'allais poser la question et répondre.
Il a encore un procès avec la Fédération Française de Football? Je crois qu'il a un procès encore avec la Fédération Française de Football.
Sur l'affaire de...
Avec l'histoire sur
les matchs truqués.
Je me demande si c'est pas une façon également de tenter de parasiter un peu les élections et d'ennuyer les dirigeants en place. Je pense qu'il y a un peu de sous-texte dans cette élection également. Karim Benzema renvoyé en correctionnel. Tentative de chantage, vous le savez, sur Mathieu Valbuena. La mascarade continue, nous dit sur les réseaux sociaux Karim Benzema. L'affaire quand même a débuté en 2015. Chantage à la sextape. Acharnement ou suite logique, mais interminable?
Suite logique.
Philippe Sanfourche.
Suite logique, c'est le chemin de la justice suit son cours. Et moi, j'en profite pour rappeler à quel point je ne comprends pas cette dichotomie qui existe entre le joueur Karim Benzema, qui, de par sa carrière et ce qu'il a prouvé au Real Madrid, est un exemple du quotidien pour tous les sportifs même du monde entier. Ça veut dire, quand il est capable de rester à ce haut niveau dans ce club, qui est le club le plus exigeant au monde, ça veut dire que chaque matin, quand il va à l'entraînement, il est dans la remise en question. Ça veut dire que c'est un garçon intelligent.
33 ans.
Voilà. Et continuer à parader sur les réseaux sociaux, après, en sortant d'un tribunal correctionnel, en faisant ces commentaires-là qui sont dignes d'un gamin de 15 ans, je ne comprends pas. Et moi, je suis désolé, je vais m'attaquer à l'icône, mais j'en veux à Zinedine Zidane. À Zinedine Zidane de ne pas être capable de lui... On était avec Philippe Tournon tout à l'heure, on a parlé du lien qui existait entre Aimé Jacquet et Didier Deschamps, de mettre la sélection au-dessus de tout. Si quelqu'un le sait mieux que quiconque, c'est Zinedine Zidane. Et qu'il n'ait pas réussi, pendant toutes ces années, à transmettre ça à Karim Benzema... Je lui en veux.
Moi, juste, je rebondis sur ce que tu dis sur sa communication là, de dire quelle mascarade. En plus, à mon avis, c'est complètement contre-productif. C'est-à-dire que de pouvoir s'exprimer comme ça, de commencer
la
à mettre en doute...
Continue,
voilà, la mascarade continue de mettre en doute les compétences et l'honnêteté peut-être du tribunal et de l'enquête, ça me paraît quand même être assez maladroit. Ouais. Et je ne sais pas s'il espère avoir gain de cause en faisant ça, mais je pense que c'est tout le contraire.
Pour l'instant, il n'est pas puni. Hein. C'est la présomption d'innocence.
Mais c'est pas ça. Moi, je parle même
pas
de ça.
Et donc, il se considère.
On parle pas du fond, là.
Non, il se considère, lui, il réagit comme un petit garçon, mais il considère, lui, qu'il n'a pas fauté. Et donc, il va jusqu'au bout de ses idées. Mais non, j'ai rien fait.
Ben, messieurs, Benjamin Pavard, en sérieuse difficulté sportive avec le Bayern Munich, aurait-il intérêt à changer de club cet hiver pour se relancer en vue de l'Euro 2021 ? C'est vrai qu'il est en sérieuse difficulté, Benjamin Pavard, non ?
Bah déjà, c'est un joueur moyen. Donc c'est déjà...
C'est un joueur champion du monde.
Moyen,
c'est déjà un joueur que j'aime beaucoup.
Donc c'était parce que tu parles du Pavard.
Donc on ne peut pas être d'accord avec vous, messieurs.
Pavard,
il met un but exceptionnel. Et il a une mentalité exceptionnelle. Et c'est un garçon vraiment manquant. En plus, j'aime beaucoup. En plus, il est de Schnorr, donc c'est bien. Mais c'est un joueur moyen. Donc ça veut dire que ce joueur-là, c'est devenu un bon, mais pas un très très bon. Et donc quand on est bon, on a aussi des baisses de forme. Donc voilà. Donc je pense que c'est un joueur de l'équipe de France parce que c'est un joueur qui est valeureux, qui est courageux et que dans un groupe, il peut vivre. Mais à son poste, ce n'est pas non plus un extraterrestre.
Personne
même si
pour
joue Bayern
de Benjamin Pavard, c'est vrai que ça colle pas actuellement. Il est sorti cette semaine et il n'a pas fait. Je ne sais plus ce qu'il a fait contre Mönchengladbach d'ailleurs hier. Ce serait à vérifier.
Mais... Déjà, il joue dans un club qui aujourd'hui est le plus fort au monde.
Ouais.
Donc, il a 2-3 clients quand même tous les jours à l'entraînement écarté. Et encore une fois, on va en revenir au débat sur le Paris Saint-Germain, mais le Bayern Munich, pour le coup, a vécu, même s'il y a eu un fractionnement du championnat qui n'est pas le même que la Ligue 1, donc on ne peut pas complètement calquer, mais en tout cas, sur le nombre d'échéances, le fait d'avoir des finales de coupe à jouer, d'avoir le final et l'enchaîné, donc il y a aussi une incidence importante sur le niveau de forme de ces joueurs-là.
Messieurs,
c'est logique.
Le dernier tir au but est toujours consacré à l'actualité à venir. Vous le savez, 10 matchs ce soir et le déplacement de Lyon à Rennes. Rennes-Lyon, c'est une belle affiche en soi. Lyon est-il armé pour jouer le titre ? Je rappelle que Lyon est leader du championnat actuellement avec 3 points d'avance sur le Paris Saint-Germain.
Oui. Pour les raisons que nous savons tous ici, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Il a su maintenir deux.
Je croyais que ça n'avait pas d'incidence.
Je m'explique.
Il est formidable.
Ils n'ont pas la Coupe d'Europe, mais par contre, j'ai pas le temps de finir. Ils ont pu garder. Il y a un bon entraîneur que vous n'aimez pas, Rudy Garcia, mais il a pu garder Depay et Aouar. Il y a une équipe.
Paqueta, c'est excellent.
Paqueta, quel très bon joueur de ce championnat. Et donc, il a une équipe pour pouvoir essayer d'être champion. Et je me mettrai bien une petite paix sur l'Olympique Lyonnais. Et comme vous le savez, moi, je défends Rudy Garcia parce que je pense qu'il sait où il va avec cette équipe.
Tous les voyants sont au vert. Le seul truc, c'est justement les rapports de Rudy Garcia avec Juninho et avec la direction. Est-ce que tout ça va permettre de rester dans une énergie positive jusqu'à la fin de saison ?
Encore un élément de réponse ce soir avec le déplacement de Lyon à Rennes. Reims-Saint-Etienne, PSG-Brest, Nîmes-Lille, Montpellier-Nantes, Monaco. Angers, Metz-Nice, Lens-Strasbourg, Dijon-Marseille, Bordeaux-Lorient complètent le programme de cette 19e journée à suivre à partir de 20h dans moins de 3 minutes avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin et Raymond Abou. Fin de son, fait le match. Merci beaucoup messieurs. Merci David Ayello, merci Stéphane Powels, merci Baptiste Després, merci Philippe Sansfourche. Merci à vous tous de votre fidélité. Prochain fait le match samedi 18h30. Très bonne nuit, très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao.
RTL. On refait le match.